Chers auditeurs, alors que les événements se précipitaient en France et que la libération du territoire paraissait imminente, Radio Vatican annonçait le 25 juillet 1944 le transfert de Mgr Léon Albert Terrier, évêque de Moutier en Tarentaise, au siège de Bayonne. Rares étaient dans le diocèse les personnes qui connaissaient le nouvel évêque ou qui l'avaient approché. On ne tarda pas à savoir que l'évêque de Tarentaise avait été le bon pasteur, actif et très apprécié de ses diocésains, qui connaissaient ses brebis, avec une pointe d'exagération sans doute, on disait même qu'il était capable de les appeler chacune par son nom. Il avait été mêlé à des événements tragiques durant l'occupation et il y avait acquis la réputation d'un authentique résistant. Son nom se trouvait sur la liste des évêques que le gouvernement provisoire estimait devoir être promu en archevêché. Faute d'archevêché, ce fut l'évêché de Bayonne qui échut à Mgr Terrier. Un évêché, il est vrai, 10 fois plus peuplé que celui de Moutier. Il allait donc quitter les Alpes pour les Pyrénées, dire adieu aux montagnes qu'il avait si souvent escaladées et se retrouver au bord de l'océan. Mgr Terrier était né à la Balme de Sillingy, en Haute-Savoie, le 10 juillet 1893. Entré au grand séminaire d'Annecy, il y fit de brillantes études, interrompues par la guerre qu'il fit dans les tranchées de Verdun et en Salonique. Il fut ordonné prêtre le 10 juin 1922 et aussitôt son évêque lui demanda d'enseigner la philosophie d'abord et ensuite la théologie dogmatique à ses jeunes condisciples du séminaire. Il était curé de Cluse lorsqu'en 1938, le Saint-Père l'appela au siège épiscopal de Moutier en Tarentaise. Nommé à Bayonne en juillet 1944, il attendit que la situation se stabilise dans le pays avant de prendre la route de son nouvel évêché. Il quitta la Savoie en novembre et après avoir traversé d'est en ouest la France, débarrassé des troupes d'occupation, mais en proie à l'effervescence de la libération et de la guerre qui n'était pas encore terminée, il parvint à Bayonne le 9 novembre au volant d'une 202 dont la carrosserie portait les traces des difficultés et des chaos de la route. Il avait à son bord la personne qui avait assuré son service depuis le temps de la cure de Cluse et dont le dévouement sans limite devait l'accompagner jusqu'à ses derniers jours. Seul était là pour l'accueillir le vicaire capitulaire, le chancelier et le secrétaire de l'évêché. Mgr Terrier convoqua aussitôt le vénérable chapitre et, fait sans précédent, mais qui allait devenir la norme quelques décennies plus tard, il prit personnellement et directement possession de son évêché. Le lendemain, 10 novembre, Mgr Terrier faisait son entrée solennelle dans sa cathédrale. Voici comment un de ses biographes décrit cette cérémonie. L'empressement du clergé, de la foule bayonnaise et des autorités, la harangue de M. le chanoine Goyenech, qui suppléait le président du chapitre, M. Daranatz, retenu par la maladie, le premier discours du nouveau pasteur, son apparition à la fenêtre de son appartement quand M. Baillot, préfet des Basses-Pyrénées, lui eut présenté ses vœux de bienvenue, son cri surtout de « Vive Bayonne, vive la France !» Nous étions encore en 1944, tout contribua cependant à conférer à la cérémonie qu'il avait voulu empreinte de simplicité, un air de majesté et de bonhomie à la fois, qui allait être le trait le plus apparent du nouvel épiscopat. M. Baillot termina son allocution en disant « Je vous tends la main, Monseigneur, et n'y voyez pas seulement un symbole, mais une réalité. » Et Mgr Terrier répliqua « Cette main, je l'accepte, je la prends et je la garderai. » Le nouvel épiscopat commençait donc sous d'heureux auspices et on put se rendre compte les jours suivants des relations confiantes qui existaient entre le pouvoir civil et l'Église locale. Le 23 novembre, Mgr Terrier faisait part à ses diocésains de la demande qui lui était parvenue de la part des autorités civiles chargées du ravitaillement pour qu'il adresse un appel aux producteurs, les invitant à livrer leurs produits dans la plus large mesure possible. « Très volontiers, disait-il, je fais écho à l'inquiétude de ceux qui ont la lourde charge de subvenir aux nécessités alimentaires de la population des villes. » À la même date, le bulletin diocésain portait à la connaissance de messieurs les curés une lettre reçue du préfet concernant un emprunt lancé par le gouvernement. « Je vous serai très vivement reconnaissant, Excellence, disait le préfet, de m'apporter pour cette propagande indispensable votre concours personnel et celui des curés du diocèse. » Le vote des femmes venait d'être décrété par le gouvernement et le même numéro du bulletin s'inquiétait d'apprendre que les consignes qu'il avait déjà lancées pour que les femmes s'inscrivent sur les listes électorales n'avaient pas été suivies dans certaines régions du diocèse. Il rappelait que cette inscription constitue pour toutes les femmes une grave obligation de conscience. Pourtant, le ciel n'était pas parfaitement serein sur le diocèse en cette fin de 1944. L'épuration avait déjà sévi dans le département comme dans le reste de la France, suscitant mécontentement et division, même si dans le diocèse de Mgr Van Steenbergh, on n'osait pas trop s'en prendre à l'Église et à ses dirigeants pour leur prise de position en faveur de Vichy. Mais le curé de Saint-Joseph de Pau, celui de Bedous et celui de Loissan avaient été arrêtés. Le journal Le Patriote de Pau était mis sous séquestre. À Bayonne, l'hebdomadaire basque Squalduna subissait le même sort et le prêtre qui le dirigeait était condamné à une courte peine de prison. Très rapidement, un autre journal, l'Éclair des Pyrénées, prenait la place du Patriote et M. l'abbé Pierre Lafitte, connu pour sa participation à la Résistance, lançait l'hebdomadaire basque Herria. Le bulletin diocésain, lui, condamné au silence pour son attitude courageuse devant la persécution des Juifs, s'était réjoui de sa résurrection dès le 24 septembre 1944. Un article non signé parut en première page du bulletin diocésain le 21 décembre 1944, comme préparation à la fête de Noël, allait soulever les protestations des milieux résistants. « C'est l'heure des vengeances humaines », constatait l'auteur de l'article. « Il importe peu que les affiches sur nos murs changent de couleur, si elles sont injustes. Il importe peu que les geôliers se nomment gardiens et les tortionnaires instructeurs. Une terreur qui n'est pas nouvelle règne dans nos cités. Trop d'innocents expient les forfaits de bandits bien abrités. Et il est dans nos maisons des milliers de cœurs brisés qu'il n'est pas permis de consoler. Non, il n'est pas permis, sous prétexte de répression, d'arrêter les innocents. Il n'est pas permis de traiter les accusés en condamnés. Il n'est pas permis, du moins en France, de torturer les coupables. La torture, c'est la sanction des barbares. L'histoire regrettera que de noires vengeances partisanes aient obscurci très vite le beau ciel de la libération française. Nous verrons la prochaine fois la fin de ces difficultés.